À mesure que sont publiés et commentés les documents révélés par Wikileaks, l'ampleur des réactions se dégonfle comme un ballon de baudruche. N'en déplaise à nos amis américains, la dramatisation d'Hillary Clinton lors de sa conférence de presse ne s'imposait pas. La mise à l'index de ceux qui publient comme la tentative de culpabilisation des journalistes qui mettent ces informations en perspective, voire la réprobation sous-jacente de ceux qui les lisent, est tout aussi malvenue. Comment pourrait-on reprocher à la presse de jouer son rôle, sauf à considérer que les politiques avaient fini par oublier qu'informer est la raison d'être de ces dernières? Si la secrétaire d'État et certains dirigeants occidentaux ont pu feindre l'agacement, ils ont surtout accrédité l'idée que la chronique ravageuse et l'éditorial impertinent étaient devenus des denrées rares, sans compter ceux des responsables politiques qui mesurent le rôle de la presse à l'aune de leur seule préoccupation électorale. Ils approuvent l'immédiateté, se félicitent de la réactivité et de la transparence lorsqu'elles servent leur stratégie. Ils les dénoncent lorsqu'elles contrarient leur progression sur l'échiquier politique. Aucun lecteur sérieux ne s'étonnera en outre de l'hypocrisie des relations diplomatiques entre les États. Dans ses fragments sur les institutions républicaines, Saint-Just ne rappelait-il pas en 1793 que les nations n'ont pas d'alliés mais que des intérêts? Quant au profil psychologique des responsables politiques, ils ont de tout temps existé. On regrettera ceux d'une bien meilleure qualité issus des correspondances du XVIIIe, où un Talleyrand se plaisait à qualifier un Wellington de « creux et pourtant plein de lui-même », tandis que François-René de Chateaubriand faisait coucher sur le papier son terrifiant constat de voir passer le vice appuyé sur le bras du crime lors d'une visite intéressée de ministre au futur Louis XVIII. Pour chaque nation, la politique devient très souvent une affaire de vérités successives. Plus intéressant en revanche, le cas Wikileaks montre un retournement en son contraire des exigences par les États de transparence absolue de leurs citoyens. À l'heure des systèmes capables de capter toutes sortes de communications, de la géolocalisation humaine par les téléphones portables, de la vision au mètre près des habitants de la planète, la démarche de Julian Assange opère un transfert de cette contrainte sur le Léviathan étatique. Ce dernier devient victime du succès d'Internet. Au départ, faut-il le rappeler, le dérivé d'un programme militaire américain censé permettre aux libertés d'essaimer de par le monde. Fini le temps où Rousseau pouvait affirmer dans ses lettres écrites de la montagne que l'exercice extérieur de la puissance ne convient point au peuple et que les grandes maximes d'État ne sont pas à sa portée. La confiscation des informations sied difficilement à l'époque où les autorités politiques surfent elles-mêmes, du député qui tweete en séance parlementaire au président qui scénarise sa vie privée, sur cette fulgurance informative. Les responsables politiques ne peuvent pas simultanément regretter la désaffection des urnes, se plaindre du désintérêt des citoyens pour la politique et crier à l'atteinte portée à la souveraineté nationale lorsque, mis devant leurs responsabilités face à l'histoire, ils doivent soudainement dire ce qu'ils font et faire ce qu'ils disent. Leur embarras provient sans doute d'un aveu, celui qui alimente trop souvent la méfiance des peuples.